KCIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
KCIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.p-o-u-r-r-i@simpatico.ca.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popori Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popori Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale.
Confiné, bienvenue à Potpourri Show, une émission spéciale en mode virtuel animée par Eric Kader en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Nous accueillons aussi le bureau de Francine Watkins, conseillère consulaire des Français de l'étranger, montage et mixage DJ Devera dans un studio de fortune. Bonjour et merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré le confinement. Au menu en ce dimanche à 17 mai 2020, comment réussir le déconfinement justement pour éviter la déconfiture. En ce 17 mai 2020, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La thématique de cette année, le soutien de la famille, c'est essentiel. Quel est l'impact de Covid-19 sur les personnes LGBTQIA? Suite à nos dernières émissions, plusieurs auditeurs ont réagi d'une façon très positive sur une nouvelle chronique avec les membres des Français de l'étranger. Une Française au Canada, depuis plus de 10 ans, nous écrit « Je vous suggère un sujet pour une prochaine émission, préjugés sur les accents, l'impact sur notre identité francophone en Ontario. Je vous remercie, chère madame, et on se reparle très prochainement, car cela nous intéresse. » Confinés, mais tous ensemble, Zoom dans les coulisses de RFI, la radio mondiale. C'est un reportage en toute exclusivité à ne pas rater. Les buzz dans nos médias partenaires cette semaine, coronavirus, l'état du monde face à la pandémie, alors que certains pays se déconfinent partiellement. Les États-Unis, le Brésil et la Russie dans le rouge. Retour à la normale à petits pas dans le monde des affaires et le monde de l'éducation en Ontario. Covid-19, les Noirs et les nouveaux immigrants touchés de façon disproportionnée. C'était dans les journaux cette semaine. Les provinces devraient-elles collecter des données sur l'ethnicité? Parmi les questions les plus posées cette semaine, quelles sont les entreprises, organismes communautaires et institutions éducatives victimes de la crise? Quel avenir pour le monde de l'éducation? Quelles sont les mesures du gouvernement fédéral pour aider les francophones?
En Europe, au Canada et aux États-Unis, une grande proportion des personnes décédées après avoir contracté la COVID-19 vivaient dans des établissements de soins de longue durée, une vraie tragédie mondiale. Quels sont les défis de l'enseignement à distance et l'accompagnement des étudiants? Coronavirus et enseignement à distance entre augmentation des inégalités éducatives et transformation pédagogique, on en parle. Les médias communautaires et la francophonie frappés de plein fouet par la crise. COVID-19 et médias, la machine à rumeurs passe en vitesse supérieure cause d'ailleurs beaucoup de dégâts. Heureusement qu'il y a RFI, France 24 et tant d'autres médias qui nous aident à ne pas tomber dans les pièges. D'ailleurs, nous allons nous entretenir avec un nouveau médium au Canada et nous recevrons un nouveau partenaire qui est financé par le gouvernement fédéral du Canada, 100% francophone, qui passe à la loupe les fausses nouvelles et les théories complotistes, une très belle initiative à ne pas rater. Pour nous accompagner pendant ces 2 heures, des invités confinés d'une grande générosité qui nous inspire, je les remercie du fond du cœur, Sylvie Béra, professeure et directrice du département d'études françaises et francophones à l'Université Trent, collaboratrice de Popourri Show, une régulière à notre émission. Merci beaucoup, chère Sylvie. La charmante Linda Giger de TV5 Monde. Aujourd'hui, sa chronique traite une des questions que se posent beaucoup d'auditeurs à l'heure du déconfinement. Que doit-on dire ? Rouvrir ou réouvrir ? À découvrir l'humeur de Linda. Professeur Aurélie Lacassagne, politicologue à l'Université Laurentienne et collaboratrice de Popourri Show. Frédéric Rivière, membre des Français de l'étranger, directeur d'école, conseil scolaire catholique Providence dans la région de Windsor. Ève Baudin, journaliste et responsable de projets d'éducation aux médias et à l'information. Elle est la porte-parole et coordonnatrice d'un nouveau projet qui combat les fake news, COVID-19, dépister la désinfo. Privés de musées, de cinéma, de théâtre et de salles de spectacle, les internautes du monde entier se lâchent sur la toile. Ils ont bien raison, ils se défoulent. Le déconfinement pour éviter la déconfiture, mais il y a aussi les pros, entre autres le grand, l'unique poète qui rappe et jongle avec les mots, grand corps malade, Angélique Kidjo avec Pata Pata, la chanson très connue en Afrique, mais aussi à travers le monde, la javanaise chantée par des internautes sous la baguette de Jane Birkin, Danick Martineau du Québec et enfin les chanteurs amateurs confinés dans plus de 34 départements français et 7 pays de par le monde, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Maroc, Suisse, Belgique, Thaïlande, l'île de la Réunion et la France, un beau petit bijou à ne pas rater. Alors, les résidences pour personnes âgées de tous les pays sont durement frappées par le coronavirus. Par exemple, des données régionales d'Espagne rapportées par les médias suggèrent que 57% des morts du pays sont des résidents de centres pour aînés. Ce taux est le plus élevé recensé en Europe. 11 000 aînés auraient succombé au coronavirus. En Ontario, au Québec, des soldats ont été déployés dans les différents centres. Ceux-ci ont retrouvé des corps ainsi que des résidents laissés à eux-mêmes. 37 maisons de retraite font maintenant objet d'enquêtes et des centaines d'autres plaintes sont étudiées. Des voix s'élèvent pour dénoncer la maltraitance et le manque de tests pour la COVID-19. Les malades n'avaient pas accès aux soins de santé nécessaires et les familles se voyaient interdites de les ramener à la maison. En Ontario, environ une résidence pour aînés sur 6 est touchée par la COVID-19. Les centres de soins de longue durée recensent environ la moitié des 514 décès de toute la province. À qui la faute? Que devons-nous faire pour rectifier le tir? J'ai le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale et collaboratrice à cette émission. Et c'est elle d'ailleurs qui a lancé un coup de gueule sur ce sujet, sur sa page Facebook, professeur Aurélie Lacassagne, en direct de l'Université Laurentielle, que j'appelle tout de suite.
Oui, allô?
Oui, je pourrais parler au professeur Aurélie Lacassin, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas trop.
Non, ça va.
Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à notre appel. En cette période historique, hein, difficile pour certains.
Ouais. Bon, en même temps, il faut se relever, mettre dans un contexte peut-être plus global et historique.
Oui. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être, vous habitez le nord de l'Ontario depuis 2001, vous avez obtenu votre doctorat à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Laurentienne à Sudbury. Vos recherches portent notamment sur les politiques culturelles et les questions identitaires, et nous avons eu le bonheur de vous connaître en 2017 lors de la publication de votre livre, un essai intitulé « Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne » aux éditions Prise de parole. Merci encore d'être des nôtres. Alors, vous avez publié un texte la semaine dernière sur Facebook qui a soulevé des vagues. Vous parlez d'angoisse éthique, votre douleur de la façon dont les personnes âgées sont traitées. Ce qui est frappant, dites-vous, c'est la léthargie du petit qui existe dans notre société. Et aussi, on sent une certaine frustration chez vous à travers ce long texte que j'ai lu brièvement la semaine dernière à l'émission. Alors, parlez-nous un petit peu justement vos ressentiments face à tout ce qui se passe.
Ben, c'est parce que je pense que ce qui me frustre, si vous voulez, ou les inquiétudes, les angoisses éthiques, comme je les ai appelées, qui me taraudent, ont trait au fait que on a de plus en plus de chiffres qui sortent sur les populations qui tombent, qui sont les victimes de ce virus, et on s'aperçoit que finalement on a les personnes âgées, les femmes, les personnes racisées et les personnes qui sont déjà dans une situation vulnérable, pauvre. Donc j'ai un problème, si vous voulez, même si je comprends tout à fait le confinement, et c'est pas une remise en cause de ce confinement, c'est juste qu'on est obligé d'en venir à la conclusion, enfin la conclusion que j'en tire en tout cas, c'est que ce confinement finalement protège les privilégiés, j'en fais partie, ceux qui peuvent rester chez eux, ceux qui peuvent faire du télétravail, ceux qui peuvent utiliser des services de livraison, et finalement tous ceux qui travaillent dans les services dits essentiels sont frappés de façon massive par le virus, et le nombre de décès est important, et continue à nous servir, et on le sait bien, ces services essentiels sont bien souvent des emplois occupés par des femmes, par des personnes racisées, et surtout des emplois extrêmement mal payés. Et c'est ça que je trouve le plus flagrant dans nos sociétés dites riches.
Oui. Alors, selon de nouvelles données, parce que sans doute les gens veulent savoir un peu ce qu'il y a des chiffres, des données statistiques, 82% de décès dus au COVID-19 au Canada ont été en soins de longue durée. Et ce chiffre est stupéfiant, étant donné que les quelques 400 000 résidents vivant dans des maisons de soins ne représentent qu'1% de la population du Canada. Donc, le COVID-19 nous a ouvert les yeux, peut-être, sur les disparités, les inégalités de notre société. Comment faire, justement, professeur Aurélie Lacassin, pour rectifier le tir?
Ce chiffre-là, il est effectivement astronomique. Vous avez dit stupéfiant, il est aussi inédit. C'est-à-dire que c'est un chiffre qu'on retrouve au Canada. On a bien sûr, notamment dans le cas de la France et de la Grande-Bretagne, on a eu une surmortalité quand même assez importante dans les maisons de retraite, appelons-les comme ça, de l'ordre d'à peu près 30%. On n'est pas à 90%. Donc il y a vraiment quelque chose de très très frappant. Alors si on parle du Canada, il y a une toute petite distinction dans le chiffre que vous donnez peut-être à faire entre le Québec et les autres provinces. Au Québec, on a véritablement institutionnalisé les soins des personnes âgées. Je regardais, on est plus de, je pense, 30% des plus de 85 ans sont placés au Québec. C'est à peu près 18% dans le reste du Canada. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans cette ordre d'idées au niveau des chiffres. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment le symbole d'une société extrêmement individualiste, où on a complètement perdu le sens de la famille. Je pense que c'est particulièrement accentué au Québec, parce qu'il y a eu alors quelque chose d'extraordinaire, cette révolution tranquille, je la comprends, mais en même temps, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et on s'est dit, la famille, c'est un truc de l'Église, donc on jette. Et donc, il n'y a absolument pas, on le voit bien, il n'y a pas du coup de solidarité intergénérationnelle. Et bien entendu, des chiffres qu'on ne retrouve pas alors en Asie, où on s'occupe des personnes âgées, qu'on ne retrouve pas non plus, je regardais les en Europe centrale et orientale, ils s'en sortent plutôt bien aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est bien entendu quelque chose qu'on ne fait pas en Afrique, qu'on ne fait pas sauf dans les sociétés ultra-libérales et ultra-individualistes.
Voilà. Ouais. Alors pour vous consoler un peu... Aucune province ne fait mieux, d'après plusieurs sondages et des articles dans des grands quotidiens. Il y a récemment le syndicat national des employés de la fonction publique qui a demandé au premier ministre canadien, Justin Trudeau, d'étendre la loi fédérale sur la santé aux établissements de soins pour bénéficiaires internes, c'est-à-dire de prendre le contrôle en inscrivant les soins de longue durée dans la loi canadienne sur la santé afin d'appliquer les normes nationales de soins et d'accessibilité. Pensez-vous que ça va régler le problème?
C'est un pas vers la bonne direction, mais pour moi, c'est pas assez. Il faut absolument qu'on renationalise tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de cette institutionnalisation systémique, si vous voulez, des soins de longue durée au Québec et dans d'autres provinces, ce que j'ai pas mentionné, c'est que en même temps, ça se fait dans un contexte d'essor, si vous voulez, du néolibéralisme, et du coup, c'est le privé. Hein, on a vraiment, on a énormément de grandes multinationales qui sont embarquées dans cette aventure. Et ça, je pense qu'il va falloir, aussi. C'est pas simplement une question de normes, c'est une bonne chose, mais il va falloir, je pense, qu'on pense très sérieusement à nationaliser aussi ces établissements-là.
Oui. Alors, le déconfinement viendra peut-être un jour en Ontario, parce que ça se passe graduellement en France, en Europe, en Italie, hein, qui a été très durement frappée. Vous avez encore des parents, de la famille en France. Comment vivent-ils ce temps difficile?
Depuis le début de cette crise, je me dis, j'ai perdu mes deux derniers grands-parents qui restaient l'année dernière, et je ne cesse de me dire, heureusement qu'ils sont partis l'année dernière. Il me reste mes deux parents qui ont autour bientôt 70 ans. Ça va bien, ils habitent dans un petit village, dans une région qui est épargnée, la Touraine. Donc ça va, ils ont ma mère a revu ses deux petits-enfants qui habitent en France pour la première fois hier, et c'était poignant. Je pense que c'est important. C'est important pour les enfants, pour les petits-enfants, et pour les grands-parents, que ce lien-là soit pas cassé. Donc ça se passe bien. Mais bon, ça va être ce déconfinement, il va se faire tout doucement, il faut qu'il se fasse tout doucement, il faut pas non plus penser que tout ne veut pas être déconfiné. Je discute avec certains de mes collègues à travers le Canada comme professeur d'université. Il n'y a personne qui a l'air convaincu qu'on va reprendre les cours en présence physique au mois de septembre. Donc ça va être très très long. Puis surtout, on vient de vivre notre salon du livre du Grand Sudbury de façon virtuelle cette fin de semaine. Moi, je pense aussi surtout à tous mes amis qui sont qui travaillent, qui œuvrent dans le secteur culturel. Et pour eux, ça va être malheureusement extrêmement long. Donc j'espère qu'on les oubliera pas et qu'on va vraiment mettre le paquet. Je pense qu'il y a eu des annonces, mais qui me paraissent bien en dessous des besoins.
Oui. Alors, le télétravail, ça marche pour tout le monde ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le Zoom Learning, comme on dit, ça fonctionne pour vous et vos étudiants?
Non, honnêtement, c'est pas... Bon, les réunions, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement laborieux.
Ouais.
Ça demande un effort de concentration, je trouve, terrible. Et je m'inquiète beaucoup de cet enseignement. Je suis quelqu'un de relativement réticente à l'enseignement en ligne. Je pense que ça ne remplacera jamais l'enseignement en présence, si vous voulez. Puis ça dépend de son style d'enseignement. Moi, je marche beaucoup, je fais beaucoup de gestes, j'écris au tableau avec une craie. Je n'ai pas de PowerPoint. Et surtout, je suis très réactif à ce que mes étudiants posent comme question. J'ai pas un... Oui, j'ai un fil, j'ai des notes de cours, mais je réponds aussi. Il va y avoir une question, puis il y a un concept qui est mal utilisé, puis pouf, je vais faire une parenthèse qui peut-être va durer un quart d'heure, mais parce que c'est important de mettre les choses au clair. Et donc, moi, je sais que personnellement, par rapport à mon style d'enseignement, ça va être extrêmement difficile. Et je sais bien que je performerai beaucoup moins bien en ligne qu'en présence physique.
Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour répondre à notre entretien. Mais aussi, sans doute, comme vous le dites si bien, il va y avoir une grande transformation. Sans doute, la vie ne sera plus jamais pareille.
J'espère. Bah, j'espère qu'elle ne sera plus la même parce que, de toute façon... On s'en allait déjà dans le mur, mais je pense qu'il va falloir véritablement se mobiliser, parce que si on compte sur nos gouvernements pour que les choses changent dans l'après, ça n'ira pas grand-chose qui va se passer. Donc j'espère que individuellement et tous ensemble, on va réfléchir et on va apprendre de nos leçons et on va mettre de la pression pour que les choses changent pour le mieux.
Professeur Aurélie Lacassin, madame, monsieur, professeur à l'Université Laurentienne et autrice d'un essai intitulé « Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne » aux éditions Prise de Parole, notre correspondante. J'espère vous avoir au micro très prochainement et je vous souhaite courage, que la force soit avec vous.
Courage à tout le monde, merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Tadam! Vous avez vu? Les portes s'ouvrent à nouveau. Les salons de coiffure annoncent leur réouverture. Les bus et les métros reprennent du service. Les commerces et même les écoles rouvrent progressivement dans les pays qui se déconfinent en ce moment. Ils rouvrent. Vous rouvrirez. Nous rouvrirons. Le souci, c'est que ces réouvertures rouvrent un vieux débat. Celui de la guerre séculaire entre deux verbes rivaux. Rouvrir et réouvrir. Lequel choisir? Même les dictionnaires ne sont pas d'accord. On dit pourtant réouverture, donc on devrait dire réouvrir, non? Eh ben non. En fait, le verbe et le nom n'ont pas été créés à la même époque. Rouvrir avec un E muet date du XIe siècle et au fil du temps, ben, il a tout simplement perdu son E. Réouverture, lui, est bien plus récent. Il date du XIXe siècle. On a tout simplement accolé un ré devant le mot ouverture. D'où notre tentation de dire réouvrir. C'est une erreur, mais elle fait partie de l'usage. Elle est tolérée par le Larousse, rejetée par le Robert et par l'Académie française qui, dans la dernière mise à jour de son dictionnaire en ligne, a tout simplement rejeté réouvrir. On va donc devoir s'habituer à dire rouvrir, même si finalement on s'en fiche, hein, tant que ça rouvre.
CIUT 89.5 Toronto.
Dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO.
le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prises de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Il est un peu plus de 6 heures du matin. Habituellement, à cette heure-ci, nous sommes peu nombreux. Mais là, depuis le début du confinement, j'avoue que je suis le seul. Caroline Paré, ma voisine la plus proche, présente son émission de la maison. Elle est confinée. Et Emmanuel Bastide, à 10 mètres de moi, n'est pas encore arrivé. Donc voilà, je suis tout seul.
Confinés, on est ensemble, tous ensemble, et c'est tout ce qui compte.
Confinés mais tous ensemble, ben, c'est vraiment le cas parce que moi je pensais que d'être tous les jours toute seule en studio ça allait pas être très marrant. J'ai le fil WhatsApp de l'équipe qui me poste au fur et à mesure tous les messages qui arrivent des auditeurs sur Instagram, sur Facebook.
J'ai pris plusieurs fois la parole au début de l'épidémie.
33 9 693 693 70.
RFI vous donne la parole sur les mesures qui sont prises dans vos pays respectifs.
Alors là je vais m'asseoir à mon nouveau studio. Sur ce petit écran d'un smartphone, Didier Bleu, le réalisateur de l'émission qu'on remercie tous les jours, et jamais assez, il a ici les moulineaux, il est devant la console, et moi je suis là avec mon installation maison.
Aux auditeurs de RFI, leur dire que cette pandémie, elle est réelle. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans le déni, pensent que ça ne peut pas arriver aux Africains.
C'est l'occasion pour les auditeurs, durant 20 minutes, de témoigner, de nous raconter l'évolution de la situation dans leur pays, de nous parler des mesures qui sont prises, des mesures qui parfois sont inadaptées aux réalités du quotidien. L'impossibilité pour eux de se laver les mains régulièrement, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau dans leur quartier. Nous avons également des auditeurs bloqués à l'étranger.
Effectivement, je suis arrivé à Dakar et au moment où je devais rentrer au Gabon, les frontières ont été fermées.
Mais en deuxième partie, on essaye tous les jours de lancer le débat sur un sujet d'actualité.
Nous parlerons de cet audit qui fait polémique au Niger.
Oui, bonjour Aruna, c'est Jessica de RFI.
Chaque jour, je m'occupe d'appeler une vingtaine d'entre vous, de discuter avec vous, de savoir un peu ce que vous avez envie de dire sur les sujets.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan Gomez.
À la maison, confinée?
Oui, à la maison. Priorité santé, on va parler du confinement, de la distanciation sociale. Ben, je suis bien placée pour en parler. On donne la parole aux médecins, aux professeurs en France, en Afrique, aux chercheurs, aux biologistes. Et puis surtout, on garde le contact avec les auditeurs parce qu'il peut y avoir dans certains cas une crise de confiance. Alors on va voir justement si ce qui est dit par les autorités sanitaires, eh bien, ça correspond à ce que vivent les populations. Vous pouvez témoigner. On vous donne la parole, on continue et on voit justement comment est-ce qu'il faut faire ce chemin ensemble pour aller ensemble contre la maladie, remporter justement ce face-à-face.
Il faut savoir qu'il y a un principe de santé publique d'une part et de l'autre côté un problème de subsistance des populations.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio pour continuer à apprendre en ces temps de pandémie et de fermeture des écoles. Au menu aujourd'hui, des mathématiques et de la cuisine avec l'enseignante Sarah Vauquier. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Et on s'est dit, on peut proposer des pistes pour enseigner, pour que les parents, pour que les grands frères, pour que les grandes sœurs puissent aider les plus petits à ne pas louper les années d'école primaire, parce que c'est déterminant en fait. Lire, écrire, compter, avec ça on peut quand même s'en sortir dans la vie.
Sarah Vauquier, alors on commence par quoi ? Des activités mathématiques pour les plus petits ?
C'est ça, oui, avec les parents bien sûr qui peuvent aider les enfants et aujourd'hui même jouer avec les enfants.
Ils ne voient pas les enfants, ils ne voient pas leurs réactions, il n'y a pas de dialogue possible. Ils sont en dialogue avec moi et encore on ne se connaît pas, on est à distance, tous confinés.
Bonjour 7 milliards de voisins, je suis Windy Agenti, j'ai 9 ans, je suis en Haïti. J'aime l'émission parce que les exercices de maths sont intéressants.
Et puis la deuxième partie de l'émission, il y a une histoire racontée par une comédienne. On essaye de mettre en valeur aussi des auteurs de jeunesse sur le continent africain.
Un jour, lorsqu'il était en train de pêcher à la ligne, un gros poisson mordit.
Alors, évidemment, à quoi ça sert tout ça ? Tout le monde peut se poser la question, surtout si on n'est pas un soignant. Nous, vraiment, à côté, on est une petite goutte d'eau. On ne pourra jamais, avec une émission de radio, éteindre l'incendie d'une pandémie comme celle que nous vivons maintenant. Mais je me dis que l'école à la radio, c'est un petit arrosoir. Et finalement, avec un petit arrosoir, ben, on peut faire pousser des choses. Voilà.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau-coronavirus.
Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée de fierté, ici, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme partout dans le monde. C'est aussi une journée de mobilisation, car 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York, la défense des droits des personnes LGBTI reste plus que jamais un combat. Un combat en France, où les agressions homophobes connaissent une forte recrudescence. Un combat dans tous les pays où des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle. La diplomatie française est engagée en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité dans les plus de 70 États où elle est encore criminalisée. Dans 12 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort, comme c'est désormais le cas dans le sultanat de Brunei. Cette situation n'est pas acceptable. Pas plus que les appels à la haine du président brésilien ou les persécutions criminelles qui ont repris de plus belle en Tchétchénie. La France accueille des victimes de ces violences et lutte contre l'impunité de leurs auteurs. Elle reste engagée pour les droits humains partout et pour tous.
Tous confinés, édition spéciale en mode virtuel, animée par Eric Kader en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter, France 24 et le bureau de Francine Watkins, conseillère consulaire des Français de l'étranger. Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Frédéric Rivière, membre des Français de l'étranger et directeur d'école, conseil scolaire catholique Providence dans la région de Windsor. Ève Baudin, journaliste et responsable de projets d'éducation aux médias et à l'information. Elle est la porte-parole et coordonnatrice d'un nouveau projet qui combat les fake news, COVID-19, dépister la désinfo. Un merci spécial au professeur Caroline Lebrec, campus de Mississauga Université de Toronto, pour son beau texte sur le confinement que vous pouvez retrouver sur notre site. Comment réussir le déconfinement pour éviter la déconfiture ? En ce 17 mai 2020, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La thématique de cette année, le soutien de la famille, c'est essentiel. Quel est l'impact de COVID-19 sur les personnes LGBTQIA ? Alors que un peu partout en Europe, les mesures de confinement et de restrictions s'allègent, les médecins, les autorités rappellent que le nouveau coronavirus est toujours là. Comment concilier reprise de la vie économique et précautions face aux risques sanitaires? Anne Cantonnerre de Radio France Internationale à Paris et ses invités en discutent. Un tour du monde rapide sur la pandémie dans le monde. Vacances d'été, l'Europe incite à la réouverture progressive des frontières
intérieure. En Corée du Sud, une hausse du nombre de cas entraîne une vague d'homophobie. Ce pays, considéré comme un modèle dans la lutte contre le nouveau coronavirus, connaît actuellement une hausse du nombre de cas de Covid-19 après l'apparition d'un foyer de contamination dans un quartier de la capitale, connu pour sa vie nocturne, notamment dans plusieurs clubs fréquentés par la communauté homosexuelle. Au Liban, le pays se reconfine pour 4 jours face à une hausse des cas. Aux États-Unis, le conseiller de santé de Donald Trump craint des morts inutiles avec un déconfinement trop rapide. En France, nouveau bilan en hausse avec baisse confirmée en réanimation. À l'île Maurice, 10 décès depuis le mois dernier. À ce jour, 0 cas pour le moment. Ultime mesure préventive du gouvernement qui étend le couvre-feu jusqu'au 1er juin prochain. À l'île Rodrigue, département de l'île Maurice, dans l'océan Indien, toujours 0 cas. La vie reprend tranquillement son cours en Nouvelle-Zélande. Au Maroc, les écoles resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre. La sécheresse complique le confinement en Guadeloupe et en Martinique. La quatorzaine reste obligatoire, mais peut être effectuée à domicile. Montréal-Nord, au Québec, au Canada, l'un des secteurs les plus défavorisés du Canada est désormais le quartier qui compte le plus de personnes contaminées par la COVID-19 au Québec. Presque tous les jours, depuis le début de la crise, les autorités annoncent des mesures de soutien aux travailleurs, aux entreprises, aux particuliers, mais beaucoup se posent la question suivante. D'où vient tout cet argent? Eh oui. Est-ce la tempête dans un verre d'eau? Que doit-on dire? Le Covid ou la Covid? L'Académie française a tranché cette semaine. Gardienne sourcilleuse du bon usage de la langue française, elle recommande d'utiliser le mot Covid-19 au féminin plutôt qu'au masculin. Au Québec, bastion francophone d'Amérique du Nord, on utilise le mot Covid au féminin. Doit-on conserver ce masque ou déjà en enfiler un autre? Ah oui, il y a beaucoup de questions sur les masques pour les enfants. On a même dit que le masque risque d'étouffer des gens, manque d'oxygène. Alors, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, des farces, mais à surveiller. Au Canada, la ministre fédérale des aînés, Deb Schultz, a annoncé cette semaine une aide supplémentaire de 2,5 milliards de dollars en faveur des aînés qui recevront 300 dollars s'ils sont admissibles à la pension de la sécurité de la vieillesse et 200 dollars s'ils sont admissibles au supplément de revenus garantis. Le gouvernement du Canada apporte une aide supplémentaire donc à des personnes âgées. Le ministère de la Santé revient sur ses pas, au Canada toujours. D'ici au 8 juin prochain, les importateurs devront se soumettre aux alternatives proposées par le gouvernement fédéral pour offrir une information en français et en anglais sur les étiquettes des contenants de la désinfectant ou de désinfectants antiseptiques et produits d'entretien. Bravo donc à tous ces médias qui ont dévoilé au grand jour une des nombreuses lacunes de Santé Canada. 11 mai, c'était le déconfinement dans plusieurs pays européens et territoires français. Un de nos correspondants à Paris nous écrit « En ce premier jour de déconfinement, des milliers de Français ont été obligés de se rendre à nouveau sur leur lieu de travail et pour certains, la rentrée passe très mal. » Le monde des affaires est inquiet. Les alliances françaises font circuler une pétition en ligne pour alerter le public sur leurs difficultés. Les théâtres français de l'Ontario avancent à tâtons durant cette pandémie, ne sachant pas quand ils pourront présenter à nouveau des pièces sur scène. Pour certains, c'est beaucoup d'incertitudes. Pour d'autres, ils sont en mode de réévaluation. Quelles seront les séquelles à long terme? C'est la grande question qu'on se pose. Des organismes au Canada voient une hausse des appels en santé mentale. Un sondage réalisé cette semaine révèle que les résidents de l'Ontario se préparent à une crise de santé mentale déclenchée par la pandémie de COVID-19. Le même sondage a révélé que 79% des participants étaient inquiets pour l'avenir, 87% craignant pour les générations plus âgées et 71% de gens sont inquiets quant aux effets de la pandémie sur les jeunes Canadiens. Si vous avez besoin d'aide en cas d'urgence ou si vous avez des idées suicidaires, composez la ligne de crise en Ontario, faites le 211 ou visitez le site 211ontario.ca. où vous y trouverez des informations des services de santé mentale, de toxicomanie et dans votre collectivité ou dans votre communauté, ou pour toute urgence, composez le 911. Un autre sondage nous montre cette semaine que près d'un tiers des étudiants doutent de commencer ou de retourner à l'université cet automne. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, édition 2020. Chaque année, des milliers de personnes dans différents pays célèbrent cette journée. La date du 17 mai a été retenue puisque l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 17 mai 1990. La thématique de cette année, l'amour de la famille, un soutien essentiel. Homophobie, un constat alarmant. Selon une étude de l'IFOP, au total 53% des personnes LGBT ont fait l'objet d'une forme d'agression à caractère homophobe au cours de leur vie. Agression physique, menaces, les formes verbales d'homophobie sont les plus répandues, notent les auteurs de cette étude. Et je vous rappelle que dans 72 pays, l'homosexualité est encore un crime. Voyons quelques chiffres. 53% des Canadiens qui ont hésité avant de parler de leur identité à leur famille, craignant d'être rejetés. 59% des Canadiens sont totalement out, sortis du placard, à leur cercle familial immédiat, et 17% le sont partiellement. 51% des personnes trans au Canada disent que leur famille ne les a pas crues ou qu'elle a ignoré l'information lorsqu'elles ont fait leur coming out. 25% des francophones ont déclaré être mal à l'aise à l'idée qu'un de leurs enfants vienne à une réunion de famille avec un conjoint de même sexe. 70% des Canadiens qui ont un proche homosexuel ont dit l'avoir accepté très facilement et 19% assez facilement. Malheureusement encore, aujourd'hui, certaines personnes coupent les ponts, réduisent les contacts ou changent d'attitude après le coming out de leurs proches. Bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, nous pouvons constater une amélioration dans la situation avec le temps. 70% de Canadiens seraient favorables à ce qu'un membre proche de leur famille se marie avec une personne de même sexe. Le coming out ou sortir du placard peut être un choc pour les proches, mais surtout lorsque la famille ne s'en doutait absolument pas. Sylvie Bérard, professeure et directrice du département d'études françaises et francophones à l'université Trente, nous a préparé une petite capsule. Elle enseigne les littératures québécoises, franco-canadiennes et autochtones de langue française ainsi que la création littéraire. Elle est autrice et nous sommes très très heureux de sa collaboration à notre émission. En cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, elle nous parle de la famille, de famille biologique, mais surtout de famille choisie.
En cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, j'ai eu envie de vous parler de famille biologique, mais surtout de famille choisie. Récemment, j'ai regardé sur Netflix le documentaire A League of Their Own, qui raconte une histoire d'amour de plus de 65 ans entre deux femmes, Thierry Donahue et Pat Henschel. Donc, dans le film, on fait leur connaissance alors qu'elles sont déjà âgées et doivent faire la difficile transition entre leur maison et une résidence pour personnes âgées, et aussi entre leur pays d'accueil et leur pays natal, donc entre les États-Unis et le Canada. Leur relation avec la famille, en tout cas avec celle de Thierry, est assez sereine, on peut dire. Et pourtant, quand vient le moment de prendre la décision, on observe des tensions entre le couple et la famille, entre autres avec la nièce de Thierry. À un certain moment, la nièce reproche à Pat de vouloir garder sa compagne juste pour elle, de ne pas vouloir la partager avec ses proches. Pourtant, ce qu'on comprend dans le film, et puis quand on connaît la vie des deux femmes d'après d'autres documentaires qui ont été faits sur elles, c'est que leur départ de leur province natale pour s'établir ensemble à Chicago a relevé du choix conscient de s'éloigner des contraintes de leur famille biologique. Elles ne sont ni les dernières, ni les premières à avoir souhaité prendre leur distance avec leurs proches afin de pleinement vivre leur homosexualité. Même de nos jours, de jeunes personnes LGBTQ vivent une situation comme celle-là. Plus loin dans le film, en parcourant leurs albums photos, la nièce finit par comprendre que sa tante et sa conjointe s'étaient recréés toute une autre famille queer loin du noyau familial. Elle n'est pas l'apanage des seules personnes LGBTQ, mais la notion de famille choisie est quand même un principe important. Dans un monde où la famille biologique n'est pas toujours un lieu où les personnes LGBTQ se sentent bien accueillies ou en tout cas bien comprises, la création d'un noyau de proches avec qui on peut se sentir en confiance devient primordiale. C'est aussi essentiel dans une société qui, même si elle est en profonde mutation à cet égard-là, est encore plus ou moins habitée par l'image d'une famille nucléaire idéale, où l'investissement émotionnel dans la famille choisie n'est pas toujours suffisamment pris au sérieux par les systèmes en place ou même par les proches, là, le reste des membres de la famille biologique. Ça ne veut pas nécessairement dire être en mauvais terme avec sa famille biologique. Personnellement, je n'ai pas de frères et sœurs, mais je m'entends plutôt bien avec mon père et la famille élargie. Nous avons une histoire commune et ça m'est précieux. J'ai trouvé dans ma famille biologique plusieurs alliés. Pourtant, j'ai tout cet autre réseau d'amis avec qui je partage de grands pans de ma vie depuis plus de 3 décennies et qui savent que je suis là pour eux et elles, oui, comme une espèce de grande sœur ou parfois une petite sœur, qui sont là pour moi en cas de coup dur. Donc, c'est comme un filet émotionnel. En cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, j'ai une pensée pour ma famille choisie. Je n'ai pas besoin de nommer personne, ils et elles vont se reconnaître, qui, par leur présence, leur soutien, leur amour, m'ont aidé à passer à travers les passages les plus difficiles liés à mon orientation sexuelle, dans une société qui est encore dominée par l'hétérosexisme, sinon carrément par l'homophobie. Donc, des gens qui me comprennent tout simplement sans que j'aie besoin de tout leur expliquer. Et que j'espère aussi que, à ma manière, j'ai aidé et compris et comprise en tour.
Il y a du monde aujourd'hui. De mépris, de rejet, voire de haine envers des personnes identifiées comme étant homosexuelles ou supposées l'être. Le terme de lesbophobie est apparu également plus récemment. On parle aussi de gayphobie, de biphobie, de transphobie. Et si on pourrait croire que notre société évolue vers plus de tolérance, eh bien on va voir que pas forcément en 2018. Les agressions homophobes ont bondi dans notre pays. Alors l'homophobie, est-ce que ça se soigne? C'est vous qui vous emparez de ce débat aujourd'hui. Flash Talk, vous le savez, c'est votre émission.
Vous faites le débat autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Flash Talk. Vous découvrez notre cartooniste cette semaine, c'est Mikaya, qui va suivre très attentivement ce qui va se passer aujourd'hui. Je viendrai évidemment le voir d'ici la fin de l'émission. Et vous le savez les amis, aussi, Flash Talk, c'est la seule, l'unique émission intégralement filmée au smartphone. Donc n'hésitez pas, qui a envie de faire partie de l'équipe aujourd'hui, qui veut filmer l'émission? Monsieur ici et mademoiselle, bienvenue dans l'équipe.
Au travail, à l'école, dans la rue, en famille, l'homophobie est partout. On va commencer avec des témoignages. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On est ravis de vous voir aussi nombreux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de témoigner? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été ici victimes d'homophobie?
Allez, je viens de ce côté-là. Bonjour, c'est quoi ton prénom?
Je m'appelle Romane.
Tu as quel âge, Romane?
J'ai 17 ans.
Où est-ce que tu vis?
Paris, 10e, vers Place de
Rennes. Ok, pas très loin. Donc on est un peu chez toi, hein, comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet, toi?
J'étais en 5e, donc je sortais avec une fille à l'époque et on se cachait pas en fait, on faisait notre vie et notre CPE un jour nous a pris à partie, j'ai reçu des plaintes en fait. Est-ce que c'est vrai que vous vous embrassez dans les couloirs? Moi je dis bah oui, comme la plupart des couples qu'on voit dans mon collège. Et en fait elle nous a dit est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Et entre nous, c'est un peu contre nature, non.
Mais non, donc mais... tu as un petit doublé gagnant. Est-ce qu'on avait déjà, le personnel scolaire avait déjà fait cette remarque à d'autres couples entre guillemets hétérosexuels?
Ce que j'ai entendu, oui.
Mais on leur a pas dit que c'était contre nature.
Voilà, c'est ça.
Merci pour ton témoignage. D'autres personnes peut-être ont envie de parler à Sonia.
Qui a envie de témoigner? Est-ce que vous avez déjà été victime ou même témoin?
Regarde Sonia, j'ai quelqu'un par ici. Ah. C'est quoi ton prénom?
Clara.
Ouh, ça va Clara? Où est-ce que tu vis, toi?
J'habite à Paris 10e.
Ok, très bien. Ah, mais j'ai une équipe du 10e arrondissement de Paris, alors. Alors, dis-moi tout.
J'étais témoin, parce que je traînais avec une amie qui est transgenre, et on avait une activité commune le soir, et je la raccompagnais tous les soirs, parce qu'elle avait peur de traîner seule dans la rue, avec une robe, de peur d'être agressée. Et du coup, moi, je devais la raccompagner. Et elle n'a pas été agressée, heureusement.
Donc, heureusement, aussi peut-être parce que tu étais là avec elle, que vous étiez en équipe et que tu la soutenais?
Je pense, oui.
Est-ce que ce sont des choses qui continuent pour elle, tu crois?
Non, elle m'a dit que ça se passe très bien dans son lycée et qu'elle n'a plus peur de rester seule dans la rue.
Eh ben, on l'embrasse. Alors, si elle regarde cette émission, je pense qu'elle peut aussi te dire merci.
Moi, je suis avec des jeunes filles. Alors, présentez-vous d'abord. Comment vous appelez, d'où vous venez, quel âge vous avez, tout ça?
Je m'appelle Caroline, j'ai 14 ans et on vient du collège des Tilleuls dans le 77.
Est-ce qu'on vous parle d'homophobie au collège?
Au collège, oui. Puis même, il y a des affiches dans certaines classes, etc. Parce qu'on a un collège, je pense, assez ouvert d'esprit. On n'a pas été témoins d'agressions. Mais je pense qu'à notre âge, on a tous entendu parler des manifestations qu'il y a eu quand il y a eu la loi Taubira, par exemple, et c'est vraiment choquant après de se dire qu'il y a quand même un mouvement de foule qui sont tous homophobes et qui rejettent certaines pratiques, qui ne les regardent même pas.
Vous parlez de la loi pour le mariage pour tous qui avait été votée en 2013 avec Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Et au collège, vous n'avez pas pu observer... Ah, si, quand même, hein, des petites manifestations d'homophobie à l'égard de collégiens qui seraient perçus comme différents?
Je ne sais pas si c'est de l'homophobie ou pas, mais je sais qu'après, il y a toujours les insultes de « t'es une tafiole, t'es un PD », etc., qui s'entendent dans les couloirs. Même quand on s'habille différemment, etc., ça va toujours être « bah t'es bi, t'es non-binaire », ou des insultes de ce style-là qui n'ont pas vraiment leur place parce que ça ne les regarde pas. C'est juste bête de faire ça.
Et t'es une tafiole, t'es un PD, c'est bien de l'homophobie, je vous le confirme.
Oui, mais c'est pas que ça, t'es lesbienne, puis tu vas t'habiller un peu comme un garçon, donc ça va être « t'es un mec ». Donc t'es un trans et tout ce genre de choses.
Je vous voyais abonder, mademoiselle. Comment vous appelez-vous?
Noémie.
Vous aussi, vous êtes dans le même collège que les copines? Vous avez 14 ans aussi?
Oui.
Alors, c'est vrai que... Alors, vous avez 14 ans, nous, on est un tout petit peu plus âgés que vous. Et on aurait tendance à se dire, la jeune génération, maintenant, quand même, les choses ont avancé. Ça dépend, c'est ça?
Ça dépend de l'éducation, ça dépend dans quel milieu social on vit. Si on vit, pour l'instant, à notre âge, surtout quand on est encore sous l'influence de nos parents, etc., si nos parents nous ont toujours répété que l'homosexualité, c'était mal, ou dans une religion, que c'était un péché, forcément, ça va être compliqué, nous, à notre âge, et souvent, on va même reproduire le même schéma qu'eux. Donc je pense qu'il faut se dire que bah on est libre et que même si nos parents nous incitent à penser comme ça, bah faut pas les écouter parce que c'est notre génération, c'est pas la leur. Donc on peut comprendre qu'ils arrivent pas à changer leur mentalité, arriver pas à un certain âge, mais c'est compliqué. Plus on est vieux, moins on y arrive.
Merci les filles de participer à notre débat aujourd'hui, d'être avec nous.
Aujourd'hui, 17 mai. Nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée de fierté, ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme partout dans le monde. C'est aussi une journée de mobilisation, car 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York, la défense des droits des personnes LGBTI reste plus que jamais un combat. Un combat en France, où les agressions homophobes connaissent une forte recrudescence. Un combat dans tous les pays où des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle. La diplomatie française est engagée en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité dans les plus de 70 États où elle est encore criminalisée. Dans 12 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort, comme c'est désormais le cas dans le sultanat de Brunei. Cette situation n'est pas acceptable. Pas plus que les appels à la haine du président brésilien ou les persécutions criminelles qui ont repris de plus belle en Tchétchénie. La France accueille des victimes de ces violences et lutte contre l'impunité de leurs auteurs. Elle reste engagée pour les droits humains, partout et pour tous.
J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme malgré cette situation exceptionnelle qu'on est tous et toutes en train de vivre actuellement. Beaucoup d'entre nous sont confinés, plusieurs personnes sont seules. Eh bien, je veux que vous sachiez que Télé 5 Monde est avec vous. On pense à vous, je pense à vous. Et parce qu'une information fiable est essentielle en temps de crise, eh bien, nous, on continue à vous informer le mieux possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on reste bien tranquillement chez nous, à la maison. On va se retrouver très vite. Allez, je vous embrasse.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Allaire. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir Epsi, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, je voudrais parler à monsieur Frédéric Rivière, s'il vous plaît.
C'est lui-même, bonjour.
Bonjour monsieur Rivière et merci beaucoup d'être des nôtres en cette période difficile. Vous êtes toujours en mode confinement?
Je suis toujours en mode confinement, plus que jamais.
Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes originaire de Paris. Ça fait 30 ans que vous êtes en Ontario, directeur d'école depuis 20 ans dans le sud de l'Ontario. Et vous êtes responsable de dossiers sensibles tels que l'enseignement des adultes, l'immigration, la sécurité dans les écoles. Et malgré ce long séjour en Ontario, au Canada, vous avez toujours gardé cette étiquette, c'est-à-dire celui qui est toujours très attaché aux valeurs et la culture de la France. Alors que la France est en mode de déconfinement cette semaine, comment ça se passe pour vous, votre famille, et quels sont les défis pour le conseil scolaire où vous travaillez?
Personnellement, le confinement se passe bien et étant salarié, je reste à la maison et je travaille de la maison, j'ai la chance de pouvoir faire cela. J'ai mis un point à bien respecter les règles des confinements parce qu'on a des amis qui travaillent dans le secteur de la santé et nous sommes très, très conscients des difficultés de tout le travail journalier où il faut faire extrêmement attention, il n'y a pas le droit à l'erreur vraiment. Et on fait extrêmement attention de ne pas être des vecteurs et de transporter le virus, donc on ne sort pas le moins possible, du moins une fois toutes les deux semaines. Et on ne peut pas se plaindre, je veux dire, on peut sortir, à Paris il fallait remplir un formulaire, etc. Ici, on peut sortir comme on veut, donc c'est plutôt un choix si on prend le risque de sortir. On a décidé de vraiment le vivre le confinement de façon à ce que ce virus parte le plus tôt possible.
Depuis le début du confinement, les entreprises et le monde de l'éducation surtout ont été très créatifs et présents sur tous les réseaux sociaux. Les plateformes de visioconférence atteignent un niveau record sur la planète. Comment l'éducation à distance se réalise dans votre conseil scolaire?
L'éducation à distance, c'est pas une nouveauté vraiment, mais ce qui se passe, c'est que là, on est en train de regarder comment passer de l'enseignement à distance de façon ponctuelle à quelque chose qui va être mieux organisé, mieux, disons, soit intégré dans le curriculum des élèves. C'est sûr que dans la situation actuelle, là, je pense que tous les éducateurs ont été pris par surprise. Il y a eu assez peu de temps pour s'organiser. Ça soulève des défis incroyables. Je suis toujours étonné de voir tout ce que les enseignants font pour appuyer les enfants, parce que généralement on pense à l'élève qui fonctionne bien dans la salle de classe, mais on peut voir des tas d'enseignants qui cherchent des solutions pour aider des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des problèmes de santé mentale, etc., qui surmultiplient les défis. À cela, il faut ajouter les difficultés dans l'environnement familial, où il n'y a pas d'accès à des ordinateurs, ou quand on a plusieurs enfants, il va falloir partager les ordinateurs. Il faut penser aux parents aussi qui doivent travailler en ligne eux-mêmes. Donc tout ça, ce sont des défis énormes. Mais je pense que l'éducation a bien réagi. Ils sont en train de travailler à mettre en place plusieurs mesures qui vont faciliter, qui auront des répercussions, je pense, à long terme. On est en train d'apprendre. C'est un virage qui est en train de se prendre, là.
Alors, pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, ils connaissent bien souvent, surtout les francophones, les Français, ils connaissent mieux la province du Québec. Et justement, il y a eu tout un grand débat au Québec pour l'ouverture des écoles cette semaine. Justement, il y a des auditrices, mères de famille qui nous écrivent. Elles nous disent qu'elles sont angoissées d'envoyer leurs enfants à l'école. Et il y a même une dame qui nous a dit, à mon avis, une période d'adaptation plus ou moins longue sera nécessaire pour recommencer à vivre en société. Et selon cette même personne, les troubles d'anxiété s'accentueront chez les jeunes, chez les enfants. Comment prévoient justement les conseils scolaires ou que devons-nous faire pour soutenir, accompagner les jeunes dans nos écoles?
Oui, c'est une bonne question, c'est vrai. J'ai pas de solution miracle pour ça. Je pense que à l'heure actuelle, tous les conseils scolaires, les ministères de l'éducation des différentes provinces sont en train d'étudier toutes les différentes possibilités dans la variété multiple de situations. Évidemment, là, on parle du Québec, mais en Ontario, c'est encore une autre dimension. Vous savez, c'est des provinces qui fonctionnent bien différemment. Les défis sont vraiment variés. On a des écoles qui sont très éloignées, on a des grosses concentrations urbaines. Il va falloir vraiment, je pense, passer à travers ce virus COVID-19 et puis regarder comment on a pu, quels sont les problèmes qui sont vraiment adressés, comment on peut le faire, quels sont les outils pour le faire, et surtout comment on va amener les enfants à vivre de cette façon-là, parce que c'est probablement que ça pourrait se reproduire, quelque chose comme ça, et au moins la prochaine fois on aura eu l'avantage d'avoir une première expérience, donc on devrait être capable de mieux répondre.
Jacques, est-ce que justement les écoles feront des aménagements d'après vous?
Toutes les écoles, oui, vont certainement faire des aménagements. Ouais. C'est toujours pareil, c'est que on a toujours le concept d'une école comme un milieu communautaire homogène, mais en fait, toutes les écoles sont différentes, avec des moyens différents. C'est ça qui est un petit peu particulier. Il va falloir, si vous voulez, c'est une chose d'enseigner ponctuellement, partager du matériel et puis faire des activités ponctuelles comme ça avec des enfants. Et c'est autre chose que de faire de l'enseignement où il y a un apprentissage qui se fait à long terme. Donc ça va demander beaucoup plus une réflexion bien plus approfondie et beaucoup de créativité, bien suivre effectivement toute la dimension santé mentale, comment la psychologie de l'enfant. Et comment l'encadrer à distance, hein, c'est toujours pareil. Ça aussi, on ne peut pas mettre un enfant de 6 ans, subitement devant un écran, et puis lui apprendre à lire, voyez-vous.
Oui, et aussi, il y a toute la question de l'immigration, hein, parce que vous avez, je pense, un bassin d'immigration qui prend de l'ampleur dans votre région, à Windsor, en Ontario, au Manitoba, beaucoup de Français, de francophones, des Africains, des gens venant de Haïti et d'autres endroits viennent s'installer de plus en plus en Ontario, donc ça peut causer des situations quand même assez délicates pour s'assurer qu'il y ait des adaptations liées à la culture de l'autre ou des jeunes. Quels sont justement, parmi les défis, je sais qu'il y en a beaucoup et vous n'êtes pas obligé de répondre, mais il y a une question qui revient souvent chez nos auditeurs, c'est-à-dire comment réaliser des examens en ligne pour les étudiants? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut compter sur ce genre d'examen en ligne sans trichement, tricherie? Alors, est-ce que vous avez une réponse pour les auditeurs sceptiques?
Déjà, le terme d'examen, si vous voulez, est révélateur parce que c'est quand même un assez vieux concept.
Oui.
On parle de tâches, si vous voulez. On peut avoir. Il y a plus que de tester les connaissances. Hein, je veux dire, on peut tester la mise en œuvre. C'est pas forcément un travail qui est essentiellement rédigé. Ça peut se faire en ligne, dans une entrevue. Il y a tellement de formats pour évaluer le niveau de compréhension de l'enfant, on ne peut pas s'inquiéter de ça. C'est sûr que si on pense qu'un examen, ça doit être un test de connaissance dans le format qu'on avait il y a 50 ans, c'est sûr que, je ne sais pas quelle sera la fiabilité, est-ce que ça sera un bon indicateur, je le doute, mais bon, ça fera partie de quelque chose de beaucoup plus. Vaste comme tâche somatique, avec probablement quelque chose où on met en œuvre, on met en application ce qui a été enseigné.
Je rappelle, madame, monsieur, que je suis en compagnie avec monsieur Frédéric Rivière, qui est dans le secteur de l'éducation dans la région de Windsor. C'est dans le sud de l'Ontario. C'est dans le cadre de notre partenariat avec les Français de l'étranger, l'Ontario et le Manitoba. Et on assiste, à mon avis, à un bouleversement de notre vie, nos sociétés. Est-ce que pour vous, c'est une transformation du monde, que ce soit dans l'éducation, notre façon de vivre, de voir la vie? Est-ce que vraiment il y a un bouleversement qui est en train de se mettre en œuvre?
Est-ce que c'est un bouleversement? C'est possible. Je ne suis pas aussi affirmatif, mais je pense qu'il y a déjà un virage qui est entamé et qui, avec l'accroissement de la population, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur les mesures d'hygiène, dans le domaine scolaire, l'architecture des écoles, comment on fonctionne, comment on organise. Juste pour vous donner une idée, il y a des conseils scolaires qui ont dû faire les distributions d'ordinateurs aux parents parce qu'il n'y avait pas assez de ressources à la maison, mais par milliers. Alors il faut organiser toutes ces choses-là, comment ça peut se faire, on ne peut pas accéder aux locaux. Est-ce qu'on peut, est-ce que l'architecture des écoles peut être conçue pour prendre cela en compte? Ça va certainement nous amener à travailler beaucoup plus avec de nouveaux outils, c'est sûr. Plus de numérique, il y aura certainement un impact du côté légal, il y aura et je pense que ça va être un changement qui va se faire de façon assez progressive, mais rapidement. Je pense que le virus va certainement accélérer tout. Mmh. Il y avait déjà quelque chose en marche, hein. Les enfants sont naturellement beaucoup plus à l'aise avec la technologie, donc je m'attends à quelque chose comme ça, là. Peut-être pas aussi radical que ce qu'on avait vu peut-être à Paris au 19e siècle avec Haussmann suite à une alerte au choléra à Paris, des choses comme ça. Mm. Certainement, il va y avoir un virage numérique important, là, oui.
Quelle est votre implication en tant que Français dans la région de Windsor?
J'essaie de rester en contact avec eux parce qu'on est... On est certainement nombreux, mais on se rencontre pas toujours régulièrement. Alors, c'est, euh, c'est vraiment le garder les liens, garder la culture, garder il y a quelque chose de particulier hein, quand on est français. Et je crois qu'il faut aussi céder sur les liens.
Mais et justement, l'Ontario, le Manitoba, on la cote ces temps-ci chez les Français. Quel est le nombre de Français dans votre région? Avez-vous une idée?
C'est difficile parce que tout le monde ne s'est pas enregistré, mais il y en a plusieurs milliers, oui. Dans la région, vraiment, dans le sud, là, on est à peu près, on doit être à peu près aux alentours de 200. Mmh.
Est-ce que à travers cette crise sanitaire, est-ce que la France vous a manqué?
Ah, je suis toujours en lien avec la France parce que j'ai de la famille en France et bon, des gens qui commencent aussi à être âgés. Donc c'est important de garder des liens et puis voir un petit peu comment ils vivent, quels sont leurs défis. Oui, on a toujours une pensée pour la France, hein, c'est difficile, on ne se détache pas de la France. Donc de cette façon-là, oui, je suis en lien, là. Je suis ce qui se passe là.
Oui. En tout cas, toutes nos félicitations pour votre dévouement, votre travail auprès des jeunes, surtout des immigrants de la région de Windsor. Et il nous faudra sans doute apprendre, comme vous dites, à vivre autrement, à penser positivement et surtout à donner toute notre gratitude au personnel de la santé qui travaille fort pour prendre soin de notre société. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de victimes dans votre région. Oui, avez-vous une idée?
Il y a eu 60 victimes, 60 décès. Sur à peu près 700 cas. Maintenant, en Ontario, évidemment, on en a eu, c'est bien plus important, il y a eu 20 000 cas et à peu près, je pense que c'est 1500 décès. Hein, c'est quand même assez important. Maintenant, on ne peut pas se plaindre, hein, nos voisins, comme vous savez, qui habitent à Windsor, on est à la frontière avec Détroit. De l'autre côté, là, c'était beaucoup plus grave, hein, il y a eu beaucoup plus, et on a tous des amis qui travaillent de l'autre côté de la frontière, donc on est toujours assez inquiet pour eux, parce que les risques sont importants là-bas. Ça va rentrer dans l'ordre.
Et je rappelle aux auditeurs, pour accéder aux dernières mises à jour du nouveau site français COVID-19, qui est bien fait d'ailleurs, et les derniers bulletins de la conseillère consulaire Francine Watkins, visitez notre site popourichaud.com pour avoir tous les renseignements. Et infiniment d'avoir pris le temps pour nous partager vos perspectives dans cette période extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'on arrive à se débarrasser de ce virus le plus vite possible et puis qu'on reprenne certaines habitudes et puis qu'on évolue, on prenne la leçon et puis qu'on améliore tout ça.
Mais... et puis qu'on... Monsieur Frédéric Rivière, merci infiniment. Que la force soit avec vous.
Merci.
Au revoir.
Décryptage, Anne Contner.
Bonjour à tous. Alors qu'un peu partout en Europe, les mesures de confinement et les restrictions s'allègent, les médecins et les autorités rappellent que le nouveau coronavirus est toujours là. Le risque est toujours présent, mais l'urgence est passée et beaucoup de pays choisissent maintenant de relancer la vie économique. Comment s'effectuent ces choix? À quel moment la situation économique devient si inquiétante, si dramatique qu'il faut absolument agir? Peut-on vraiment concilier la précaution sanitaire et le maintien de l'activité? C'est notre décryptage du jour. Et je reçois deux invités, deux économistes pour évoquer cet arbitrage entre risque sanitaire et situation économique. Bonjour Jean-Baptiste Velu.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique et de l'économie américaine. D'ailleurs, vous êtes en ce moment au Texas en détachement à l'université d'Austin. Et nous sommes en ligne également ce soir avec Stéphanie Villers, économiste aussi donc, et spécialiste de la zone euro. Bonjour.
Bonsoir.
Alors l'économie complètement à l'arrêt ou presque pendant des semaines, voire deux mois pour la France par exemple, ça s'était déjà fait en période d'épidémie, Stéphanie Villers?
Ah non, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une première, hein, c'est totalement inédit. On a connu à travers notre histoire bien sûr de nombreuses épidémies, pandémies, mais c'est la première fois où globalement la moitié pratiquement de la planète s'est retrouvée en confinement parce que d'une part le caractère contagieux de ce virus était un peu plus élevé que les autres Et donc, il s'est propagé extrêmement vite et on n'avait ni vaccin ni traitement. Et pour le soigner, il faut des objets, enfin des produits sophistiqués, apparemment qu'on n'a pas, les fameux réanimateurs, la respirateur, pardon. Et donc, voilà, il n'y a pas eu d'autre solution globale que de se mettre en confinement.
Donc, une situation inédite, vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, on essaie de revenir à la normale ou en tout cas à une nouvelle normalité. Et on a l'impression que dans certains pays, il est plus difficile de dire ouvertement qu'il faut maintenir l'activité économique. Jean-Baptiste Velu, le message est très clair aux États-Unis, par exemple, alors qu'en France, lorsque la levée du confinement a été évoquée, il a été question de la réouverture des écoles. On a mis en avant le fait que la situation sanitaire était sous contrôle, mais un peu moins l'économie.
Oui, effectivement, je crois que l'économie est une priorité la santé de l'économie est une priorité pour l'administration Trump. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est aussi l'enjeu électoral qui est, je dirais, le troisième pied de cet arbitrage économique et sanitaire. Il y a aussi une dimension électorale qu'il ne faut pas négliger aux États-Unis à l'approche donc de l'élection présidentielle de novembre.
Oui, il y a des situations, effectivement, on aura l'occasion de parler de plusieurs pays au cours de cette émission et c'est effectivement important de garder à l'esprit qu'il y a des situations politiques qui diffèrent et donc évidemment des enjeux eux aussi différents. Est-ce que selon vous, Stéphanie Villers, il y a un rapport particulier à cette question en France, qu'il est plus difficile de dire on rouvre parce que l'économie va trop mal ?
En fait, je pense que c'est pas tant la décision, elle n'a pas été prise dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment depuis le début. Hein, on écoute le corps médical. Hein, c'est le corps médical qui a conseillé ce confinement brutal. De même, hein, je pense que le déconfinement qui se fait de manière très progressive. C'est parce que les conditions sanitaires sont assurées. Donc, on nous explique que tous les moyens ont été donnés ou sont pris, en termes de sécurité, pour assurer aux salariés un mode de travail le plus sécurisant possible. Donc, c'est la prudence qui prévaut dans ce cadre-là, parce qu'on a vu effectivement et on le voit encore, certains pays qui ont déconfiné trop vite et puis finalement qui font marche arrière. On pense actuellement par exemple à l'Allemagne hein, qui une partie certains Länder sont revenus en arrière et ça y est se remettent à se confiner de nouveau. Donc on sait très bien que cette épidémie peut avoir des effets dévastatrices hein, si les choses s'enchaînent hein. Et puis on connaît aussi notre réalité d'un point de vue sanitaire. On n'a pas assez de lits hospitaliers pour pouvoir recevoir en masse si l'épidémie se met à se propager de nouveau et trop vite. On sait les risques qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas voulu prendre en se confinant. Et je pense que ça a été mesuré et ce sera mesuré de toute manière pendant toute cette période de déconfinement qui sera extrêmement progressif. Parce que de toute manière, ce qui a été perdu sur les deux premiers mois de confinement, ce serait encore plus dévastateur si on se mettait à être confiné, par exemple, de nouveau d'ici deux semaines. Hein, je pense que c'était pas la communication et l'état d'esprit, c'est pas ça. C'est vaut mieux une bonne période, une longue période de confinement pour pouvoir assurer les arrières et ensuite se mettre à reproduire petit à petit.
Un déconfinement donc très progressif, hein, vous nous l'avez dit, mais qui a quand même entraîné quelques réticences en France notamment. Certains ont dit qu'on faisait primer le retour au travail sur le reste. Est-ce que une partie de ces réticences pourrait être due peut-être au rejet qu'on observe depuis le début de la pandémie d'un certain modèle économique, Jean-Baptiste Velu, d'un système capitaliste néolibéral qui est de plus en plus critiqué ?
Alors aux États-Unis, je dirais que la question est un peu plus compliquée. On sous-estime peut-être trop souvent de l'étranger, de la France notamment, les divergences idéologiques qui existent aux États-Unis. La spécificité, je dirais, alors si on peut souligner des traits communs à la culture américaine, notamment son ambivalence par rapport à la rapport à l'expertise actuellement, hein, qui est problématique, je dirais, dans la gestion de cette crise, un rapport à l'État qui est très différent de celui de la France. Il y a aussi énormément de divergences politiques par État, voire par ville. Et c'est ce qui fait un petit peu, qui rend la réponse à votre question un petit peu délicate. Bon, certes, il y a une remise en question du libre marché aux États-Unis, notamment, bon, on pourrait dire l'aile gauche du Parti démocrate. Mais je crois que au-delà de ces clivages partisans, il y a aussi des clivages donc par État. Et donc qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense notamment que la réponse à votre question est très différente dans l'État de New York où le gouverneur Cuomo est très soutenu pour son approche très prudente, et à l'inverse l'État dans lequel je me trouve, le Texas, l'un des premiers à réouvrir. Et effectivement, on regarde d'un mauvais œil l'intervention de l'État fédéral parce que culturellement. On pense que il faut privilégier la libre entreprise et le retour de l'économie. Même si, encore une fois, même à l'échelle locale, je réside à Austin, qui est une ville plutôt libérale au sens anglais du terme, c'est-à-dire plutôt à gauche. Il y a encore une échelle différente entre la ville et l'État du Texas, où il y a beaucoup de conflits entre le gouverneur Abbott et le maire d'Austin, Adler.
Oui, effectivement, on peut aussi penser que les différences qu'on observe dans différents pays, déjà en ce qui concerne les décisions qu'ils ont prises et puis la manière dont ils sont touchés sur le plan économique, sont peut-être dues à des structures de l'État qui diffèrent. Vous nous parliez des États-Unis, c'est aussi le cas en Allemagne, par exemple, qui a un système fédéral et où on a vu ces deux dernières semaines, même s'il y a des nuances toutes récentes parce que l'épidémie ressurgit, on a vu quand même les lenders commencer à préparer le retour à la normale, alors que ça n'était pas du tout la vie d'Angela Merkel, Stéphanie Villers.
Oui, effectivement, c'est un État fédéral, donc avec une autonomie de chaque région que nous n'avons pas en France. Hein. Ils ont des responsabilités économiques et sanitaires, et c'est eux qui prennent finalement les décisions lender par lender, et on le voit bien là récemment, puisqu'il y a un lender qui décide de nouveau de se confiner. Donc, il y a aussi la gestion de la crise sanitaire qui a certainement été plus efficace du côté outre-Rhin, puisqu'il y avait un niveau de stock de masques, mais aussi des lits hospitaliers qui sont quand même supérieurs, presque deux fois supérieurs à ceux de la France. Et donc, en fait, ils pouvaient voir l'épidémie avec un peu plus de sérénité que nous. Et d'ailleurs, en fait, globalement, eux ont été confinés 4 semaines. Il y aura peut-être d'autres mouvements. Hein, mais là, je vous dis, aujourd'hui, en fait, ils ont été dans leur totalité confinés 4 semaines, alors que nous, nous avons été confinés 8 semaines. Donc, le double. Donc,
oui, c'est ce qui a permis... Le double, oui, c'est ce que vous nous disiez.
Oui, c'est ça. Il y aura des conséquences encore plus lourdes du côté français que du côté allemand du fait de l'arrêt, ou en tout cas de la mise en pause de la production au niveau de la France. Mais c'est la même chose.
Oui, c'est qu'évidemment, bien sûr, les mesures qui sont prises au niveau économique, elles dépendent aussi beaucoup de la capacité à absorber la crise au niveau sanitaire. Est-ce que, selon Absolument. Vous, Stéphanie Villers, cette structure de l'État allemand, le fait que ce soit un système fédéral, ça a été un atout dans cette crise ou non?
Alors, en fait, seul le résultat compte et c'est ce qu'ils mettent en avant. En fait, ils ont beaucoup plus de flexibilité dans la prise de décision. Et d'ailleurs, notamment en termes de stock de masques, c'est pas décidé au niveau central, mais c'est effectivement décentralisé. Et on voit en fait qu'effectivement, il y a eu moins de prises de panique par rapport à cette épidémie. Mais cela dit, hein, vu l'ampleur hein, et la dangerosité de ce virus, ils ont quand même dû hein, se mettre en confinement. Hein. Donc c'était pas les masques et les respirateurs en fait n'étaient pas étaient indispensables, mais il fallait d'autres mesures, notamment bah, on attend tous la même chose, c'est-à-dire qu'on attend pour pouvoir se sortir d'affaires d'un point de vue économique, hein, je parle notamment, c'est de trouver ce traitement, ce fameux traitement ou ce fameux vaccin. Et je pense qu'on est, il y a une course poursuite au niveau mondial, au niveau de la recherche mondiale pour pouvoir aboutir à des traitements efficaces, puisque pour le moment, on l'a pas. Et c'est toujours une épée de Damoclès qui est là pour le coup sur tous les États.
CIUT 89.5, Toronto.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on me porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée de fierté, ici, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme partout dans le monde. C'est aussi une journée de mobilisation, car 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York, la défense des droits des personnes LGBTI reste plus que jamais un combat. Un combat en France, où les agressions homophobes connaissent une forte recrudescence. Un combat dans tous les pays où des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle. La diplomatie française est engagée en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité, dans les plus de 70 États où elle est encore criminalisée. Dans 12 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort, comme c'est désormais le cas dans le sultanat de Brunei. Cette situation n'est pas acceptable. Pas plus que les appels à la haine du président brésilien ou les persécutions criminelles qui ont repris de plus belle en Tchétchénie. La France accueille des victimes de ces violences et lutte contre l'impunité de leurs auteurs. Elle reste engagée pour les droits humains partout et pour tous.
Lavez-vous les mains, gardez la distance sociale d'au moins un mètre avec votre interlocuteur. Des messages de musiciens africains pour sensibiliser le public contre le Covid-19. En Ouganda, le célèbre chanteur et politicien Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, associé ici à son collègue Nubian Lai, sur un air mêlé aux mélodies de rumba emblématique de l'Afrique de l'Est, ils encouragent les gens à se faire dépister. Avant Bobby Wine, la star de la musique congolaise Fally Ipupa invitait déjà le public à éviter d'échanger de baisers.
Fali en mode confinement. Bah bisous, stop, stop. Les accolades, stop, stop.
Fali invite également le public à rester confiné à domicile malgré la difficulté d'appliquer cette décision en Afrique.
Oui. Je sais que pour les gens qui sont en Afrique, c'est très très compliqué, je le sais. Mais mes chers frères et sœurs, notamment pour ceux qui sont au Congo, RDC, mon pays, respectons les consignes données par les autorités et l'OMS. Restez à la maison, protégez-vous et protégez aussi les autres, s'il vous plaît. C'est un petit message de votre frère, ami et artiste Fally Ipupa. On est ensemble.
En Afrique comme partout dans le monde, des artistes, des personnalités se mobilisent contre la pandémie de coronavirus pour sensibiliser les populations, pour leur dire qu'il faut prendre très très au sérieux la menace que représente cette pandémie. Hier, nous étions en ligne avec Tikenja Fakoli, le reggaeman ivoirien, appelait l'Afrique à se réveiller. C'est une maladie qui existe. Cette maladie est une réalité, a-t-il dit à plusieurs reprises. Ce matin, c'est le rappeur burkinabé Smarty qui est avec nous. Bonjour Smarty.
Bonjour Juan.
À Ouagadougou, merci. Vous aviez envie d'être des nôtres ce matin. Et on aura comme ça tous les jours des personnalités, des artistes qui souhaitent s'adresser au plus grand nombre, aux auditeurs de RFI. Quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs, Smarty?
Je pense qu'avant tout propos, j'aimerais, au nom de tous les acteurs culturels du Burkina et en mon propre nom, présenter nos condoléances aux victimes de cette maladie et un propre établissement à ceux qui sont malades. Et surtout nos encouragements à l'endroit de tous ces médecins-là en ce moment qui sont au front. Parce que c'est vrai que nous, on reste confinés, mais eux, ils sont au contact des malades, ils sont tout le temps en train de se battre. Et je pense que toutes nos pensées vont vers eux. Et on ne parle pas assez d'eux, je trouve. Oui. Voilà.
Mais c'est bien de le rappeler, c'est bien de le dire. Smarty, vous avez composé très rapidement un morceau. Pour interpeller vos fans, pour interpeller tous ceux qui écouteront cette chanson à travers les radios, comment expliquer cette envie immédiate de composer et d'écrire des paroles?
C'est le manque de prise de conscience autour de nous, parce qu'on vit avec des gens, on vit au contact de la population, et on entend quand même les propos des uns et des autres, du genre c'est une maladie qui touche uniquement certaines couches de la société, le virus résisterait au soleil, donc plein de rumeurs qui ne sont pas fondées.
Et d'ailleurs, donc, vous dénoncez justement ces fausses informations sur le coronavirus qui circulent sur les réseaux sociaux. Je propose, Smarty, d'écouter un extrait justement de ce morceau, et on vous retrouve dans à peine une minute.
Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosques se sont vidées. Les restos sont confinés, tous les bars sont sous-scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc. Que Mamadou, le guérisseur, a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique.
Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Smarty, il faut dénoncer sans cesse toutes ces fausses informations qui circulent.
Tout à fait. Quand on est un artiste et on fait partie de la société, c'est notre rôle de faire prendre conscience aux gens. Et si on en parle aujourd'hui au Burkina, on a vu des membres du gouvernement qui ont été testés positifs. Donc ça veut dire que nul n'est à l'abri de cette maladie et la seule règle qu'il y a, c'est de se protéger. Et au-delà de cette chanson-là, on va entreprendre avec l'accompagnement de l'UNICEF aussi, dans l'avenir, une opération de distribution de gel gratuit et de masques afin que les gens puissent se protéger. Donc vraiment, le message, il est clair. Les gars, si vous m'écoutez, pardonnez. restez chez vous, protégez-vous, écoutez les consignes, faites attention parce que la maladie est réelle.
Et attention aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai encore Marc qui nous dit ici en Côte d'Ivoire, certaines personnes sont convaincues qu'on peut guérir du Covid-19 avec de l'ail, du piment, de l'eau chaude ou encore une résistance incontestable lorsqu'on a la peau noire. Évidemment, tout cela est faux et archi faux. Vous n'êtes pas immunisé si vous avez la peau noire. Cette thèse est refutée par tous les scientifiques. Smarty, merci infiniment d'avoir pris la parole sur l'antenne de RFI.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Pour Potpourri Show, édition spéciale, tous confinés, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, une émission réalisée dans des conditions assez difficiles car nous avons toujours pas accès à nos studios. Avant de vous présenter notre dernière invitée, je tiens à remercier chaleureusement le bureau de Francine Watkins, conseillère consulaire des Français de l'étranger, Linda Giger de TV5 Monde, professeur Caroline Lebrec, campus de Mississauga, Université de Toronto, professeur Aurélie Lacassagne à l'Université Laurentienne, l'équipe de Radio France Internationale à Paris, Sylvie Bérard, professeure et directrice du département d'études françaises et francophones d'Université de Trente, Monsieur Frédéric Rivière, membre des Français de l'étranger et directeur d'école, conseil scolaire catholique Providence dans la région de Windsor. Dimanche prochain, nous recevrons un autre membre de la belle équipe de Francine de la région d'Ottawa. Vous pouvez avoir accès à toutes les biographies de nos invités de ce dimanche sur notre site potpourrishow.com. Potpourrishow.com, voilà. Et enfin, un grand merci à tous les auditeurs, les auditrices, les amis de la région de Toronto, en Afrique, à nos amis dans les Antilles, qui continuent à alimenter chaque semaine nos émissions spéciales confinées. Un grand merci à DJ Devera pour sa ténacité, sa patience et surtout son expertise lors de ses montages et mixages. Le mois de juin, je vous rappelle, s'en vient à grands pas et exceptionnellement, nous allons mener notre campagne d'adhésion en ligne. Plus que jamais, nous aurons besoin de votre soutien. 33 ans déjà, si vous appréciez notre travail, nos émissions, vous appréciez tout ce qu'on fait depuis tant d'années, eh ben, nous aimerions avoir un petit coup de pouce de votre part afin de pouvoir entamer notre campagne d'adhésion le mois de juin. Donc, envoyez-nous un message si vous souhaitez participer à notre émission, être à l'antenne, potpourri@cut.fm. Check news, fact checks, comment démêler le faux du vrai, c'est la grande question. Rumeurs, propagande, manipulation, piège à clic, comment désintoxiquer l'opinion publique? Depuis le début de la pandémie, nos médias partenaires débusquent les fausses informations liées à Covid-19. La chronique « Les dessous de l'infox » épingle chaque semaine sur RFI une tentative de manipulation de l'information. Les théories les plus folles sur la manière de combattre le coronavirus circulent sur les réseaux sociaux. Lancement du projet de lutte contre la désinformation Covid-19, dépister la désinfo, Track the Facts, un projet financé par Patrimoine canadien. Des articles et des vidéos extrêmement bien faits sont diffusés quotidiennement sur le site web covid-desinfo.ca sur plusieurs médias sociaux, y compris YouTube. Allez sur notre site pour avoir toutes les informations, popourishow.com. Pour en savoir plus, nous recevons Ève Baudin, journaliste et responsable de projets d'éducation aux médias et à l'information. Elle est la porte-parole et coordonnatrice d'un nouveau projet qui combat les fake news Covid-19. Dépister la désinfo. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine, que la force soit avec vous. Allez, nous allons appeler tout de suite Ève Baudin.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, je pourrais parler à Ève Baudin, s'il vous plaît. Ici Eric Kader de Popourri Show sur CUTFM. Avez-vous quelques minutes à me partager?
Oui, bien sûr.
Alors, merci beaucoup d'être des nôtres dans ce moment historique.
Oui, en effet.
Oui, alors cela nous fait plaisir de vous recevoir à notre édition spéciale Tous confinés. Nous vivons un moment extraordinaire, jamais vu. Vous êtes journaliste, animatrice, autrice, responsable de projets d'éducation aux médias et à l'information. Vous êtes aussi membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bravo, félicitations pour votre beau travail et surtout pour ce nouveau site. Vous êtes porte-parole, coordonnatrice d'un nouveau projet qui combat les fake news, comme on dit en bon français chez nous, COVID-19, dépister la désinfo en collaboration avec l'agence Science Presse. Et si je vous invitais, c'est que après 1001 recherches à travers nos médias, médias partenaires, tels que France 24, RFI, que vous connaissez sans doute, eh bien, nous avons découvert que vous êtes bel et bien un médium sérieux. Et donc, j'ai reçu le feu vert de vous accueillir. Non, non, je plaisante. Tout ça pour dire, avant de sauter sur la première nouvelle, des fois sensationnelle qu'elle peut l'être, il faut toujours être en alerte, n'est-ce pas? Avoir l'esprit critique. Parlez-nous un peu de ce nouveau projet financé par le gouvernement du Canada, dont nos amis membres de la radio peuvent déjà avoir accès grâce à notre page Facebook.
Ben oui, écoutez, effectivement, c'est un projet financé par Patrimoine canadien. C'est une collaboration entre l'agence Science Presse, qui est un média qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, donc et puis la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Donc, le mandat de ce projet dont vous venez de parler, d'éditer la désinfo, et d'ailleurs, il y a une version anglophone qui s'appelle Track the Facts, donc COVID-19 Track the Facts. Donc, on va faire beaucoup de contenu en anglais et en français pour les adultes et pour les jeunes. Il y a un site Internet où on peut retrouver toute l'information, donc covid-desinfo.ca, et puis aussi sur le site de l'agence Science Presse. Bref, le mandat de ce projet, tout simplement, cherche à, disons, endiguer la désinformation sur le coronavirus. On sait que l'OMS a littéralement déclaré qu'il s'agissait d'une infodémie, tellement il y a de fausses informations qui circulent, et ça va là des faux remèdes, en passant par les théories du complot, mais aussi des fois simplement des extrapolations ou des mauvaises compréhensions de la science, parce qu'il faut dire qu'en ce moment tout va très vite. Et puis, ben, certaines personnes aussi en profitent pour, disons, mettre en ligne des contenus qui sont au minimum pas sérieux et ou qui peuvent aussi être dangereux. Alors, on sait que plusieurs personnes sont mortes après avoir suivi des conseils dangereux de santé. Donc, nous, on trouve ça extrêmement préoccupant comme journaliste et évidemment comme journaliste scientifique aussi. Donc, nous avons décidé d'aller de l'avant avec ce projet.
Oui.
Et puis, il y a donc des textes de fact-checking, comme vous dites en bon français, donc des textes de vérification des faits, où on va faire des vrais ou faux sur certaines thématiques, sur des sujets qui se retrouvent à être partagés beaucoup sur le web, mais aussi il va y avoir ce qu'on appelle, disons, des outils, donc on explique des concepts parfois par image, donc des choses comme par exemple des infographies sur le biais de confirmation, parce qu'on sait que ça peut jouer aussi dans la façon dont on s'informe, hein, on va privilégier les informations qui confirment ce qu'on pense déjà ou qui nous confirment dans nos croyances. Et voilà. Donc, c'est le mandat qu'on s'est donné. C'est un gros mandat.
Oui. Vous savez que... mais en même temps, c'est très, très, très important, Ève Baudin, parce que il y a des gens qui y croient ferme et dur. Vous savez, j'ai des membres même de ma famille en Australie, on s'est disputé, on ne se parle plus depuis quelque temps, parce que eux, ils croient mordicus que ces arnaques, ces vidéos complotistes sont réelles. Alors, il y a justement cette semaine, pas plus tard qu'hier, une vidéo Covid-19 qui déferle sur Facebook, les réseaux sociaux, et Facebook, justement, a fermé le site de ce monsieur parce que considère que c'est très dangereux. Est-ce que, justement, Facebook, Twitter et les autres médias, plateformes sociales devraient pas peut-être être plus proactifs? Je sais que c'est difficile parce que quand on sait, il y a le locataire de la Maison Blanche qui est le chef-d'œuvre, l'homme orchestre qui des fois propage lui-même, et vous savez qu'il a beaucoup de suiveurs, followers, n'est-ce pas? Comment faire justement vous avec votre projet, dont j'y crois fermement, c'est pour cette raison que vous êtes là, comment contrecarrer quelqu'un qui est si puissant comme Donald Trump?
Oh, écoutez, c'est pas le mandat qu'on s'est donné. Nous, par contre, on fait le pari sur le fait que les gens s'informent. Hein. Si on regarde quand même sur les statistiques d'achalandage, par exemple, je peux vous dire que le site de l'agence Science Presse a des records, c'est du jamais vu là, en 40 ans d'années. Bon, évidemment, le site n'existait pas il y a 40 ans, mais on a plus que jamais des gens qui viennent consulter notre site Internet. On le voit aussi par d'autres statistiques. Les gens veulent s'informer. Le New York Times aussi, la quantité de gens qui vont consulter l'info sur leur site explose. Donc, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Il y a de nombreuses personnes qui veulent s'informer. Là où il y a un problème, c'est que sur le web, il y a l'information sur les réseaux sociaux, là, se retrouve l'information qui n'est pas très crédible, se retrouve présentée au même niveau que l'information qui a été vérifiée par des journalistes, par exemple, ou de l'information qui a été mise par des organisations reconnues en santé. Et c'est là où nous, on peut aider les gens à dépister le vrai du faux sur le web, sur les réseaux sociaux, en posant quelques questions. Parce que finalement, ce qui arrive, c'est que sur le web, c'est pas facile toujours. Hein? Une fois qu'on reste seulement sur les réseaux sociaux, ben c'est pas évident de distinguer un site fiable d'un site qui n'est pas fiable. Donc, il faut vraiment faire une petite analyse de la publication, aller cliquer sur l'information, se rendre sur le site, puis là, on pourra voir est-ce que c'est un site sérieux, qui a produit le contenu, quel est le mandat de cette personne-là. On peut se poser différentes questions en fonction du temps qu'on a aussi. Évidemment, on ne peut pas passer, tout le monde ne peut pas passer 3 jours à débusquer une fausse nouvelle, mais il y a quand même pas mal de gens qui font ce travail-là, dont nous, des gens qui font du fact-checking. Donc, je pense que juste en rappelant au public, qui peut déjà aller s'abreuver auprès de sources qui sont fiables, comment reconnaître une source fiable, comment aller retrouver le travail de journalistes qui font du fact-checking, plutôt que de commencer à s'énerver à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude, peut-être de tourner du côté de ce que disent les grandes organisations en santé et pourquoi on devrait faire confiance à des organisations en santé avant de faire confiance à un YouTuber. C'est des petits rappels, mais qui sont vraiment utiles parce que ce qui arrive sur le web, c'est qu'on oublie des fois, on met un peu notre esprit critique en veilleuse parce que c'est pas un endroit où on va nécessairement s'informer. On s'informe un peu par la bande et c'est là où il faut faire attention.
Alors, je vous rappelle, madame, monsieur, je suis avec Ève Baudin, qui est porte-parole coordonnatrice de ce nouveau projet qui combat les fake news, Covid-19, dépister la désinfo, en collaboration avec l'agence Science Presse, et nous sommes très heureux que vous soyez là. Alors, je sais que je vais me faire tirer dessus, mais je prends le risque, c'est que le site est très bien fait, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, un journaliste africain qui travaille dans un grand média partenaire à Paris, serait bien aussi qu'on s'attelle peut-être à cibler certaines informations qui sont en provenance du Maghreb ou de l'Afrique. ou des autres îles, des Antilles par exemple, à Martinique, Guadeloupe, parce que là aussi, il y a tout un niveau de méconnaissance au niveau comment combattre la désinfo. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est parce que nous avons une communauté très élargie, comme vous savez, l'immigration francophone au Canada, sa communauté francophone n'est pas homogène, hein, elle est très multiculturelle. Et des fois, il y a des informations en provenance de l'Afrique que je reçois régulièrement, complètement, complètement démodées, dépassées, mais aussi très dangereuses.
Bien entendu. Ben écoutez, oui, nous, on reçoit aussi des fois des propositions de sujets. Quand on les reçoit, on essaie de les traiter. Je suppose que vous êtes au courant que tous les médias qui font de la vérification des faits sont littéralement débordés par les demandes de la part du public. Éventuellement, on essaie de tout faire les sujets, mais évidemment, c'est une question de temps et de disponibilité, hein. On est une très, très petite équipe. Mais vous avez raison, c'est aussi important de traiter de ce qui se passe là-bas. Évidemment, notre mandat premier, c'est nous avons reçu de l'argent de la part de Patrimoine Canada. Donc, c'est surtout ce qui est plutôt viral, je dirais, ici au Canada. Donc, s'il y a des recherches qui se font en Afrique, on va moins porter d'attention, tout simplement parce que ils vont avoir eu moins de retentissement ici au Canada. Mais voyez-vous, j'en ai eu une demande là, pour quelque chose, une étude qui est faite en ce moment en Afrique. Donc, si on a le temps, elle est dans le collimateur. Je ne sais pas quand on aura le temps d'attendre.
Voilà. Ève Baudin, journaliste, animatrice, autrice, responsable de projets d'éducation aux médias et à l'information. Elle est aussi membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Merci encore d'être des nôtres aujourd'hui dans cette période extraordinaire de crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Merci infiniment à vous et votre équipe, votre belle équipe. Merci. Et j'espère vous revoir très prochainement à l'antenne et que la force soit avec vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.